Il existe peu d'endroits en France qui n'aient pas son histoire de fantômes ou d'extraterrestres, mais le lieu qui concentre le plus les fantasmes est sans nul doute sa capitale. Il est presque impossible de dissocier Paris de son mythe, tant il fait partie de son histoire, étant son imaginaire à traverser les âges. Des plus vieilles maisons du 15e siècle aux monuments les plus visités, chaque coin de rue, chaque parc, chaque bâtiment de la ville Lumière recèle son lot de mystères plus ou moins fondés. Mais la ville la plus touristique du monde n'est pas restée figée dans le temps, et le XXe siècle a vu passer son lot d'étrangetés, que ce soit intramuros ou dans sa banlieue nouvellement créée pour accueillir les afflux de population. Ainsi, durant le siècle dernier, Paris et sa région ont été le théâtre de phénomènes étranges, parfois inexpliqués, parfois très médiatisés, et c'est ce dont nous allons vous parler ce soir.
Je suis Mathias.
Je suis Charles.
Bienvenue dans le Bureau des Mystères. La fête est finie. L'histoire que je vais vous raconter commence au cœur de Paris, dans un rare grand espace de verdure niché entre les toits haussmanniens. Nous sommes dans le jardin du Luxembourg, et c'est ici qu'un jeune homme du nom de Jean Romier aurait fait une surprenante rencontre. Nous sommes le mardi 2 juin 1925, entre les allées verdoyantes du jardin du Luxembourg. Sous l'ombre des arbres, à l'abri du soleil qui se prépare à l'arrivée de l'été, Jean Romier est assis sur un banc. Cet étudiant en médecine de 24 ans est en pleine révision lorsque quelqu'un s'avance. C'est un homme plutôt vieux, vêtu d'une redingote, qui vient s'asseoir à côté de lui. Plutôt sympathique, il a vraisemblablement envie d'entamer la discussion avec lui. Jean Romier, intrigué par ce passant plutôt avenant, met alors de côté ses manuels et commence à échanger avec lui. Il parle d'abord, comme le font deux inconnus, de la météo. Mais très vite, il se découvre une passion commune pour la musique. Le vieil homme qui s'appelle Alphonse Berruyer est un grand amateur de Mozart. Sentant que le jeune Jean apprécie lui aussi ce compositeur, il lui demande s'il connaît les quatuors avec flûte du compositeur autrichien. Jean ne les a jamais entendus. Alphonse Berruyer lui fait alors remarquer qu'il s'agit d'une grande lacune quand même pour un passionné de Mozart. L'étudiant en médecine lui rétorque, à juste titre, que ses places de concert coûtent cher et que tout le monde n'a pas les moyens de se les payer. Le vieil homme lui dit alors ceci. « Écoutez, vous m'êtes sympathique, je vais vous faire une proposition. Avec quelques amis et quelques membres de ma famille, nous avons constitué un petit orchestre de musique de chambre. Et vendredi prochain, nous jouerons justement un de ces quatuors. Voulez-vous venir l'entendre? Je vous invite de bon cœur. » Jean Romier a été touché par cette attention et a accepté avec joie. Alors à ce moment-là, Alphonse Berruyer lui donne son adresse qui est située rue de Vaugirard et il s'en va en lui disant « à vendredi ». Trois jours plus tard, il se rend donc chez le quasi-inconnu du parc. Il monte trois étages et sonne à la porte. C'est Monsieur Berruyer qui lui ouvre tout sourire. L'ambiance est à la fête. Le vieil homme lui présente toute sa famille. Sa femme, son frère, sa belle-sœur, ses deux petits-fils et son neveu. Et si tout le monde l'accueille chaleureusement, Jean Romier ressent toutefois un léger sentiment de malaise. C'est pas tant l'habitude des gens qui le surprend, mais plutôt l'appartement en lui-même. Les éclairages au gaz, les bibelots anciens, les vêtements de la famille Berruyer, tout lui semble passé de mode, vétuste. Mais la bonne humeur de ses hôtes lui fait vite penser à autre chose et l'étudiant en médecine finit par passer une très bonne soirée. Les musiciens jouent le quatuor de Mozart, puis du Geminiani, puis du Stradella. Les applaudissements résonnent dans l'appartement, les verres s'enchaînent et les discussions s'engagent. Jean Romier se rapproche notamment du jeune neveu d'Alphonse Berruyer. C'est un séminariste, un futur prêtre donc, qui est lui aussi passionné de musique. Les deux hommes échangent longuement sur leur compositeur préféré en fumant de nombreuses cigarettes. Les heures passent, et Jean Romier finit par se rendre compte qu'il est déjà plus de minuit. Il dit alors au revoir à la famille Berruyer et commence à rentrer chez lui. À peine sorti de l'immeuble, Jean veut s'allumer une nouvelle cigarette, mais se rend compte qu'il a oublié son briquet dans l'appartement. Il remonte alors les trois étages et appuie sur la sonnette. Et cette fois, personne ne lui répond. Jean Romier sonne une deuxième fois, surpris. Il se dit que la famille n'a quand même pas pu aller se coucher en un aussi court laps de temps. Pas de réponse. Il essaie alors une troisième fois, en laissant le doigt appuyer plus longtemps sur la sonnette. C'est à ce moment-là qu'un voisin débarque sur le palier et lui crie dessus. « C'est pas bientôt fini ce boucan, mais qu'est-ce que vous faites là? Qui êtes-vous » Jean Romier lui explique alors qu'il sonne chez Monsieur Berruyer. « Chez Monsieur Berruyer ?» s'étonne alors le voisin. « Mais Monsieur Berruyer, monsieur, il est mort il y a au moins 20 ans, et cet appartement est vide. » Jean Romier est, comme vous pouvez vous en douter, sous le choc. Il assure alors au voisin que c'est impossible puisqu'il vient d'assister à une fête chez lui. Il lui raconte le concert, il lui explique qu'il a oublié son briquet et qu'il veut juste aller le récupérer. Mais le voisin ne le croit pas. Un concert ? Vous pensez bien que si quelqu'un avait organisé un concert dans cet appartement, je l'aurais entendu. Vous êtes qu'un petit voyou, voilà ce que vous êtes. Un cambrioleur. Et il se met alors à hurler au voleur dans la cage d'escalier, il réveille le concierge de l'immeuble, et Jean Romier se retrouve ensuite embarqué par la police, accusé d'avoir essayé de s'introduire dans l'appartement. L'étudiant raconte en détail son histoire au commissaire, qui ne le croit évidemment pas. Jean Romier assure qu'il peut décrire pourtant précisément l'intérieur de l'appartement, mais on lui répond que ça ne prouve rien, puisque tous ceux de l'immeuble sont conçus sur le même plan. Le commissaire finit par contacter le propriétaire de l'appartement abandonné. Il s'agit de Monsieur Mauger, l'arrière-arrière-petit-fils d'Alphonse Berruyer. Le lendemain matin, ce dernier les rejoint devant l'appartement rue de Vaugirard. Jean Romier décrit alors précisément ce qu'il a vu la veille au soir. Derrière cette porte, il y a dans l'entrée une stèle avec une petite reproduction de la victoire de Samothrace, un grand tableau représentant une marine et une console de marbre. On ouvre alors la porte, et stupeur, la description donnée par Jean Romier se vérifie. À une exception près, tout est couvert de poussière et sans le moisi, comme si les lieux avaient été laissés à l'abandon depuis des années. L'exploration continue. À chaque pièce, le policier et le propriétaire sont stupéfaits de voir que les souvenirs de Jean Romier correspondent parfaitement aux objets laissés dans l'appartement. Dans le salon, des portraits sont encore accrochés au mur. Jean Romier reconnaît un des petits-fils d'Alphonse Berruyer et se souvient qu'il était élève à l'école navale. Monsieur Mauger, troublé, lui confirme alors qu'il s'agit de son grand-oncle, qui était amiral. Romier reconnaît ensuite un étudiant en droit. Monsieur Mauger, encore plus choqué, lui répond qu'il s'agit de son grand-père avocat. Enfin, Romier reconnaît le séminariste avec lequel il avait parlé pendant des heures lors de la soirée. « C'est mon autre grand-oncle, » lui répond Mauger. « Il est mort en Afrique. Il était missionnaire. Comment est-ce que vous savez ça ?» Soudain, les souvenirs lui reviennent en tête. « Mon grand-père m'a parlé de concerts qui étaient organisés ici par son grand-père. Mais c'est impossible. » Et pourtant, laissant en plan Monsieur Mauger, Jean Romier retourne dans le salon bibliothèque où il avait discuté jusqu'à minuit avec le séminariste. Et sur un guéridon couvert de poussière, il retrouve alors son briquet. Ouais, alors cette histoire est plutôt étrange, on peut la retrouver un peu partout sur le net avec plus ou moins de détails, et aussi dans de nombreux livres sur le paranormal qui sont sortis ces dernières années. Alors moi, tu me connais, Charles, j'ai essayé de trouver la source la plus ancienne à ce sujet, évidemment.
Ben oui, comme toujours.
Et j'ai fini par tomber sur une émission de radio des années 70. Ça s'appelait Le Temps de Vivre, c'était animé donc dans les années 70 sur France Inter par Jacques Pradel.
Déjà,
il existait un format récurrent de 20 minutes consacré au mystère dans cette émission. Ce segment-là, ça s'appelait Histoire magique de l'histoire de France. Et c'était présenté en alternance par deux journalistes, Louis Powels et Guy Breton. Le premier, c'était un grand amateur de paranormal, puisque c'est lui qui a écrit un livre qui a fait date, hein, Le Matin des Magiciens. C'est un des livres des références, de référence sur le paranormal en France, et qu'il a créé la revue ésotérique Planète. C'est un monsieur très présent dans le milieu du paranormal.
En effet.
Et le deuxième, Guy Breton, avait une affection particulière pour les histoires insolites, qu'elles soient paranormales ou non.
D'accord. Et du coup, tu l'as entendu, c'est une émission de radio qui date des années 70 ?
C'est ça.
Mais il est, dans l'émission des années 70, il était raconté comme se passant quand ?
Alors, je n'ai pas pu le savoir, puisque je n'ai pas accédé aux archives de cette émission. Je n'ai pas pu avoir de fichier MP3 où on l'entend. En fait, ce que j'ai pu avoir, c'est l'intégralité des histoires qui ont été traitées dans cette émission. Mmh. Il se trouve qu'effectivement, à une date, il y a le concert de Jean Romier qui apparaît et qui a été raconté donc voilà, à l'époque. Et qui s'est retrouvé surtout parce que, comme nous, avec le Bureau des Mystères, il y a eu des livres où ils ont récupéré leurs meilleures histoires, ils les ont rallongées, ils les ont étoffées. Ils ont étoffé leur chronique et ça a donné un livre qui est sorti en 1977 chez Albin Michel qui s'appelait donc Histoire magique de l'histoire de France. Et c'est dans cet ouvrage qu'on peut lire avec beaucoup de détails d'ailleurs, je m'en suis servi pour raconter cette histoire, l'aventure de Jean Romier. Et donc je me suis basé là-dessus et en découvrant cette histoire, vous pensez forcément à une légende urbaine en fait.
Et ça ressemble, c'est logique. Il y a plusieurs traits en fait. Le potentiel voyage dans le temps, l'objet un petit peu totem qui est retrouvé, pas des années après, mais le lendemain et qui est témoin d'une époque ou ce genre de truc, les environnements un peu vieillots. Il y a pas mal de trucs qu'on retrouve à deux, trois endroits.
Tu as des traits fantastiques, la mystérieuse rencontre, le départ de l'appartement à minuit, pile, évidemment.
Ouais.
Et puis surtout, ça fait penser à une légende urbaine assez connue. Tu la connais sûrement, je crois qu'on en avait parlé déjà une fois. C'est celle où il y a un jeune homme qui prend en stop une autostoppeuse. Mmh. Il la ramène chez elle et il réalise plus tard que la personne qui vivait là était morte depuis des années.
Ouais.
Et souvent, il y a un résidu, c'est-à-dire qu'il devait lui ramener un collier ou quelque chose, tu vois. Et c'est exactement la même structure ici avec Jean Romier, avec justement cet élément de soi-disant réel en plus, c'est-à-dire le fait qu'on retrouve le briquet à la fin. C'est censé prouver que Jean Romier a bien voyagé dans le temps, et que tout ça est vrai. Mais bon, nous, on pense évidemment aux légendes urbaines, on pourrait le classer dès maintenant d'ailleurs en tant que légende urbaine, mais ce serait sans compter sur un point essentiel qu'a apporté donc Guy Breton, le journaliste. Lorsque Jacques Pradel lui avait demandé à l'époque, parce qu'en fait dans le livre c'est la structure, c'est tu as l'histoire qui est racontée, et il y a aussi les interventions de Jacques Pradel, elles sont rapportées, c'est-à-dire les questions qu'il avait posées à ce moment-là dans l'émission, elles sont à l'intérieur. Jacques Pradel jouait plutôt l'incrédule dans cette émission, donc il posait des questions pour essayer de comprendre, mais attendez, est-ce que c'est vraiment la réalité, ce qu'on racontait, machin.
Okay.
Donc Jacques Pradel lui a raconté, lui a demandé à l'époque quelle était sa source, évidemment. Et Jean Romier lui a dit que son histoire ne venait pas du tout de son imagination, ni d'un recueil folklorique ou d'une tradition orale. Non, non, elle vient, selon lui, des archives de la préfecture de police de Paris. Pardon, c'est Guy Breton.
Ah oui, d'accord, j'allais dire, waouh, s'il a rencontré Jean Romier, waouh.
Non, 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 c'est Guy Breton, dans l'émission, avait dit à Jacques Pradel que l'histoire de Jean Romier voilà, venait, selon lui, des archives de la préfecture de police de Paris.
D'accord.
Donc Guy Breton explique qu'il a consulté ces archives, qu'il a découvert un dossier sur donc, l'affaire Jean Romier. Et il a expliqué qu'une enquête avait eu lieu pour déterminer si, effectivement, Jean Romier avait pu s'introduire dans l'appartement et déposer son briquet, mais la police aurait déterminé que la serrure n'avait pas été forcée. Et ce n'est pas tout, puisque la quantité d'informations amassées par Jean Romier sur les verrouillés est énorme. Donc, s'il s'agissait d'un canular, ce serait vraiment très élaboré. Tu vois, si c'était vraiment un dossier de police avec autant de détails, ce serait vraiment très très élaboré, quoi.
D'accord.
Et d'ailleurs, Guy Breton, dans Histoire magique de l'histoire de France, lui ne pense pas du tout à un canular. Évidemment, il explore d'autres pistes, évidemment, qui donnent dans le paranormal. Guy Breton croyait aux fantômes, hein. Il l'assume dès la préface du livre. Mais ici, il n'évoque pas des fantômes, il évoque plutôt un double voyage temporel. Selon lui, Alphonse Berruyer aurait d'abord été dans le futur, en croisant Jean Romier dans le jardin du Luxembourg. Et ensuite, Jean Romier aurait, je cite, trébuché dans le passé, en se rendant au concert.
Trébucher dans le passé, c'est joli comme expression.
J'aime beaucoup l'expression, il utilise à plusieurs reprises l'expression trébucher dans le temps, que je trouve très belle. Donc bon, même si c'est joli, l'hypothèse est quand même assez saugrenue, mais Guy Breton, lui, se base sur un concept qui a été développé en 1927 par John William Dunn, qui est un ingénieur britannique, et qui a écrit un livre que tu connais peut-être, qui s'appelle « Le temps et le rêve », An Experiment with Time, en version originale. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès dans les années 30, en fait, dans lequel donc, John William Dunn détaille plusieurs grandes théories, avec des bases plus ou moins scientifiques, et il dit notamment que les rêves prémonitoires existent, et qui seraient parfois à l'origine de nos sensations de déjà-vu. Alors c'est faux, hein,
puisqu'on le sait maintenant.
Oui. Voilà, on sait aujourd'hui que les impressions déjà-vues s'expliquent beaucoup d'autres manières, notamment par la fatigue, le stress, dans les cas les plus classiques. Mais Dunn développe aussi l'idée selon laquelle notre vision linéaire du temps n'est qu'une illusion. Alors je vais simplifier à l'extrême ce qu'il dit, et à vrai dire je suis pas tout à fait sûr de tout comprendre, mais selon Dunn, le passé, le présent et le futur se mêleraient dans une dimension qu'on perçoit très partiellement, et c'est ce qu'on appellerait le présent.
Okay.
Tu me suis, c'est compliqué. Mm-hmm. Et comme l'explique Guy Breton, Jean Romier et Alphonse Berruyer auraient pu vivre des scènes qui ne correspondent pas au présent tel qu'on l'entend, mais à ce présent-là, où les différentes périodes du temps se mêlent. Voilà, tout cela ne tient pas vraiment la route. Alors déjà, je vais préciser que An Experiment with Time a fait l'objet de nombreuses critiques, principalement pour son manque de rigueur théorique. Hein. Les personnes qui citent les travaux de Dunn aujourd'hui sont quasiment toutes versées dans le paranormal et ont très souvent envie d'y croire, aussi, ça a précisé. Et du côté de la communauté scientifique, ce n'est évidemment pas pris au sérieux. Pourtant, Breton fait de ce saut dans le temps sa principale théorie. Dans l'histoire magique de l'histoire de France, il assure même qu'Einstein s'est penché sur l'affaire.
Évidemment.
Et que Einstein lui-même a déclaré « ce jeune homme a trébuché dans le temps ». Évidemment.
Bah on est moins sûr, là, déjà.
Bah, évidemment, ce n'est pas sourcé.
Ouais.
Voilà. Évidemment, j'ai envie de te dire. Et c'est en fait le principal problème dans toute cette histoire, c'est que Guy Breton ne cite pas convenablement ses sources. Il cite plusieurs ouvrages de Dunn pour sa tentative d'explication, mais en revanche, au sujet de Jean Romier, à part la mention « archives de la préfecture de police », il n'y a rien.
C'est vacheux pour un journaliste.
Bah oui, c'est ça qui est curieux. Pas de numéro de dossier, pas d'indication supplémentaire, vraiment rien. Alors je suis peut-être sceptique à l'extrême, et on me le reproche parfois, mais je trouve ça plutôt curieux. Ce qui me met la puce à l'oreille, c'est que Breton raconte cette histoire avec beaucoup trop de détails, avec des dialogues soi-disant exacts, et une structure narrative qui évoque la fiction et même le conte, parce qu'on a la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, la chute, on est vraiment dans une structure classique. Et à la fin de son histoire, il assure même, dans le livre, que le cas de Jean Romier n'est pas isolé, et qu'il y aurait, je cite, énormément de gens à qui il arrive de rater une marche dans l'escalier du temps.
Ah, ça c'est, oui, dans l'escalier du métro, je connais, ça m'est déjà arrivé, mais dans l'escalier du temps,
ça arrive plus rarement. Mais selon lui, il y en aurait suffisamment pour écrire un livre, carrément. Et pourtant, en cherchant, je n'ai pas trouvé énormément d'histoires similaires. Même en fouillant sur d'obscurs sites, sur le paranormal, pas sourcé ni rien, je n'ai pas trouvé d'histoire réellement similaire à celle de Jean Romier, à part cette fameuse légende urbaine que je racontais tout à l'heure. Alors, le degré de mystère sur cette affaire, si on croit tout ce que raconte Guy Breton, est très élevé.
Oui.
Parce que bon, quand même, on parle de quelqu'un qui trébuche dans le temps, un briquet qui réapparaît mystérieusement, c'est quand même très étrange. Mais pour savoir si Guy Breton dit vrai, il faudrait faire un tour aux archives de la police, sans doute fouiller pendant très longtemps pour espérer retrouver les documents en question. Ou alors,
comme je l'ai fait,
on peut être un peu curieux et envoyer un mail au cas où au service des archives de la police. C'est ce que j'ai fait le 10 juin 2019. Je leur ai demandé si je pouvais consulter un document concernant un certain Jean Romier. Je leur ai aussi demandé s'il existait un rapport au sujet d'un déplacement de la police en 1925 dans un appartement de la rue de Vaugirard. Alors, comme dans mon mail, j'ai utilisé les mots « voyage dans le temps », honnêtement, je ne pensais pas avoir de réponse. Ça m'est déjà arrivé par le passé quand j'ai enquêté sur la Dame Blanche d'Alba la Romaine, où j'ai commencé à parler de fantômes aux gendarmes et on m'a un peu rionné, évidemment. Là, je ne m'attendais pas spécialement à avoir une réponse de la part des archives de la police, mais je me suis dit « on va le faire au cas où ». Et quelle n'a pas été ma surprise ? Quand un mois plus tard, j'ai obtenu une réponse des archives de la police que je vais vous lire maintenant. Monsieur Alcaraz, dans votre courriel en date du 10 juin 2019, vous avez souhaité consulter un rapport de police évoquant le voyage dans le temps d'un jeune homme, Jean Romier, en 1925 dans un appartement de la rue de Vaugirard. Tu ne rigoles pas, Charles, j'ai vraiment écrit ça. Et donc ils m'ont répondu, je vous informe que les recherches effectuées dans nos inventaires, notamment dans la sous-série CB relative au registre de la main courante, et en particulier pour le quartier de Vaugirard, ont été infructueuses. Par ailleurs, le nom de Jean Romier n'apparaît dans aucun de nos fichiers.
Ah,
ça mérite d'être clair.
Oui, donc Jean Romier n'aurait jamais eu affaire à la police.
Jamais. C'est en tout cas ce que me répond la police. J'ai tendance à vouloir croire le service des archives de la police quand même. Donc, que s'est-il passé ? Ma théorie là-dessus, c'est que Guy Breton, dans cette émission, a pu inventer tout simplement cette histoire en la basant sur des faits soi-disant réels, c'est-à-dire ce dossier de police qui n'existe pas. Et c'est des choses qui pouvaient effectivement se faire dans le journalisme des années 70. On en avait discuté, je crois, une fois, tu m'expliquais qu'à l'époque, la manière de pratiquer le journalisme en France n'était pas tout à fait la même.
Oui, alors dans les années 70 quand même, avant clairement se serait posé question, dans les années 70 quand même, post-Seconde Guerre mondiale, c'est déjà beaucoup plus rare.
Bah, du coup, c'est ce qui m'intrigue aussi un petit peu, c'est je me dis que quand même, on est dans une émission sur France Inter,
oui.
Présentée par déjà Jacques Pradel, et pourtant, cette histoire est fausse. Et du coup, ça m'attriste un peu, parce que ça me fait remettre en question toutes les autres histoires qui ont été racontées dans cette émission-là, et ils en ont raconté énormément. Il y a beaucoup d'histoires que tu retrouves aujourd'hui dans des livres sur le paranormal, ou que tu retrouves dans des émissions de télé, par exemple, 30 histoires les plus extraordinaires, qui ont été racontées à l'époque, dans Histoire extraordinaire d'Histoire de France. Donc on peut remettre en question aujourd'hui, à la lumière de ce que j'ai fait aujourd'hui, voilà, on me confirme que ça n'a jamais existé, tout ce qui s'est passé, enfin une bonne partie de ce qui a pu se raconter dans cette émission, exagéré ou totalement inventé, comme ça a l'air d'être le cas pour ça. Donc en ce qui me concerne, et je pense que tu seras de mon avis, l'affaire est totalement classée.
L'affaire est complètement classée, je suis assez d'accord. Je vois pas ce qui pourrait relancer quoi que ce soit. Ça ressemble un petit peu à Shining aussi, au voyage de Jack Torrance durant une soirée mondaine quelques années auparavant. Ça me fait un petit peu penser à ça. Mais c'est une jolie histoire, c'est une belle structure, c'est une jolie histoire.
Ouais, je me disais que c'était plutôt sympa à raconter,
oui.
Et surtout, maintenant que j'ai la vraie chute, je ne pouvais que la raconter.
Allez, affaire classée.
Affaire classée.
Visiteur extraterrestre à Cergy-Pontoise. Le matin du 26 novembre 1979 à Cergy-Pontoise, Franck Fontaine disparaissait. Il ne refait surface que le 2 décembre. L'homme promet d'abord n'avoir que très peu de souvenirs de ce qui s'est passé pendant ce laps de temps, mais lui et ses amis assurent que l'homme s'est fait enlever par des extraterrestres. L'affaire sera une des plus médiatisées du genre en France. Le 26 novembre 1979, Franck Fontaine a seulement 19 ans. Il est marié et est père d'un petit garçon de 3 mois. Il se réveille ce matin-là à 4h dans le quartier de la Justice Mauve. Un horaire particulièrement matinal car le jeune homme part travailler sur le marché de Gisors, dans l'Eure, à une quarantaine de kilomètres de Cergy. À l'époque, pour figurer ce quartier de la Justice Mauve, il faut imaginer ces nouvelles villes qui poussent comme des champignons dans la région parisienne. La ville, à cette époque, est en réalité en pleine campagne. Jean-Pierre Prévost et Salomon Ndiaye sont ses deux amis présents lors de sa disparition. Le premier, Jean-Pierre Prévost, 26 ans, vend des vêtements sur les marchés de la région de Pontoise. Le deuxième, Salomon Ndiaye, 25 ans, est sénégalais. Il habite en France depuis 5 ans et est comptable de formation. Les trois jeunes hommes partent ensemble les matins de marché pour aller vendre des vêtements dans la région. Leur petit business est peu rentable, mais leur permet de subvenir à leurs besoins. Mais le matin du 26 novembre 1979, le trio assure avoir assisté à un phénomène inexpliqué. Alors qu'ils embarquent leurs affaires dans la voiture, qu'un ami leur a gentiment prêtée, ils aperçoivent une étrange lumière. Celle-ci est décrite comme cylindrique, environ 2 à 3 mètres de longueur pour une dizaine de centimètres de diamètre. Jean-Pierre remonte à son appartement pour aller chercher le parasol de leur stand. Salomon le suit pour aller chercher un appareil photo et immortaliser ce qu'ils appellent alors l'étrange apparition. Frank reste dans la voiture, le moteur allumé. Il justifie cela par le fait que le vieux break n'avait plus de démarreur et que le relancer était un processus fastidieux. Selon leur dire, les trois amis avaient déjà poussé la voiture sur plusieurs mètres pour la démarrer et ne voulaient pas recommencer. Frank décide alors de ne pas attendre le retour de ses amis qui étaient remontés à l'appartement et d'aller lui-même voir où avait atterri la lumière. Ils estiment à ce moment-là qu'elle est située à environ 300 à 400 mètres du parking où ils stationnaient. Malheureusement, dans son chemin, la lumière était passée derrière un immeuble et tous l'avaient perdue de vue. Déterminé, le jeune homme roule en direction de la lumière qu'il avait distinguée quelques secondes plus tôt. Au début, il ne voit rien, mais traçant sa route, il se rend compte qu'elle stationne au-dessus d'une centrale électrique. Il s'approche, ralentit son allure, mais la petite boule de lumière descend. Elle descend lentement depuis la station électrique. Elle se rapproche de la voiture de Frank, se pose sur son capot, et la voiture s'arrête instantanément. Frank Fontaine décrit ce moment comme s'il était soudainement entré dans un brouillard. Il ne voyait plus ce qu'il y avait à travers les fenêtres de son véhicule, il ne voyait plus ce qui l'entourait. C'est comme si au moment où si la boule s'était posée, un épais brouillard s'était mis à l'entourer. Il tente alors de sortir de la voiture, mais les portières sont bloquées. C'est à ce moment qu'il perd connaissance. Depuis la fenêtre de l'appartement, Jean-Pierre Prévost et Salomon Ndiaye aperçoivent également le brouillard enveloppant le véhicule. L'épaisse purée de poids fait que Jean-Pierre et Salomon n'ont pas assisté à la scène d'enlèvement, mais ils déclarent bien avoir vu la lumière. Pour Salomon, il s'agissait d'une lumière blanche, opaque. Pour Jean-Pierre, cela ressemblait à, je cite, « une fusée du 14 juillet ». Parce que, je cite encore, « le contour était davantage net à l'avant, mais donc flou à l'arrière, comme si la lumière se déplaçait ». Ils redescendent et retrouvent la voiture, toujours au centre de l'épais nuage. Il court pour la retrouver et en s'approchant, il remarque désormais que quatre petites sphères blanches tournent autour du véhicule. Selon Jean-Pierre, les quatre lumières rondes se sont rapprochées jusqu'à former une boule lumineuse aveuglante et repartir instantanément dans le ciel. Le brouillard s'estompe avec le départ de la sphère et à leur grande surprise, Frank a disparu. Il retrouve la voiture est fermée à clé, le brouillard s'est dissipé, mais Frank a disparu. Les deux amis rentrent immédiatement à l'appartement et appellent la police. Ce que je viens de vous raconter, c'est ce que les trois jeunes hommes ont affirmé dans l'émission Temps X, présentée par les frères Bogdanov, le 26 avril 1980, donc un petit peu plus de... quelques mois, environ 6 mois après les faits. Et évidemment, c'est ce qu'ils vont raconter à une bonne partie de la France, et c'est ce qu'une bonne partie de la France va croire. Les policiers se rendent évidemment sur place, mais ne remarquent rien d'anormal, si ce n'est que la voiture est en effet vide. Selon les policiers qui vont interroger les deux témoins séparément, les discours de Jean-Pierre et Salomon semblent, en apparence du moins, cohérents, et les deux amis n'ont apparemment aucune raison de mentir. Se rajoute à cela qu'ils avouent à la police qu'ils conduisent sans permis et sans assurance. Donc on peut imaginer qu'ils ont relativement... peu de raisons de se retrouver face à la police pour raconter cette histoire. Une enquête est logiquement ouverte pour disparition, même si évidemment la thèse OVNI n'est pas forcément celle qui est retenue par les policiers. La voiture ainsi que la zone d'enlèvement sont très sérieusement passées au compteur GGR. Une boussole est portée sur place pour vérifier qu'il n'y a aucun phénomène magnétique. Absolument rien n'est détecté. Même les radars de l'armée n'ont observé aucune activité inhabituelle dans le ciel de Cergy-Pontoise ce jour-là. C'est-à-dire que la police va faire une demande officielle à l'armée pour savoir si les boules lumineuses décrites par Jean-Pierre et Salomon ont à un moment donné été enregistrées sur des radars. Ce n'est pas le cas.
Des ovnis très discrets donc.
Des ovnis extrêmement discrets, des ovnis peut-être avec des technologies que nous ne connaissons pas, n'est-ce pas ? Des battues sont organisées pendant plusieurs jours dans les champs alentours. La police soupçonne assez logiquement que c'est un meurtre déguisé, mais ce qui les chiffonne un petit peu, c'est que dans le cadre d'un meurtre déguisé, on essaie de faire en sorte que l'excusé soit crédible. Là, en l'occurrence, détailler une thèse extraterrestre pour déguiser un meurtre, c'est davantage attirer l'attention sur soi que déguiser un meurtre. C'est une hypothèse qui les chiffonne un petit peu. Frank Fontaine refait surface, finalement, 8 jours plus tard. Il s'est, selon lui, réveillé dans le fossé à côté duquel était la voiture. Lui raconte qu'il estime qu'il s'est écoulé entre 10 à 20 minutes. En réalité, cela faisait bien 8 jours qu'il était recherché. Il raconte qu'il est retourné à l'appartement de Jean-Pierre croyant qu'il avait tout simplement perdu la voiture et la marchandise après s'être évanoui. C'est-à-dire que quelqu'un, le voyant évanoui, l'aurait sorti de la voiture et serait parti avec la voiture et la marchandise. Élément quelque peu perturbant, la police apprend par la radio que le jeune est réapparu. C'est-à-dire qu'il ne l'apprend pas de la part de ses amis ou du premier concerné, du disparu lui-même, qui aurait appelé la police quand ses amis lui auraient dit que ça fait quelques jours qu'il a disparu. La police l'apprend par la radio.
Donc ça veut dire qu'ils ont contacté les médias avant même de contacter les forces de l'ordre, en fait.
Ça veut dire qu'un appel anonyme a été passé auprès d'RTL. Mmh. On apprendra plus tard qu'il s'agissait en fait de Salomon qui avait passé cet appel anonyme. Les policiers se rendent alors sur place et constatent que Frank Fontaine est en effet avec sa famille, son jeune fils, sa femme, et qu'il va très bien. L'affaire semble résolue, mais pas tout à fait, puisque ce qui va suivre et les explications qu'il va donner à sa disparition, puisqu'il faut bien la justifier, va être encore plus délirant. Encore une fois, toutes les versions entendues par la police, énoncées par les trois jeunes et leurs proches, corroborent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande dissonance dans les histoires. Mais le contexte peut mettre un petit peu, on va dire, la puce à l'oreille quant à ce qui aurait inspiré les amis. FR3 a diffusé la veille de la disparition de Frank une émission sur les ovnis. Eux disent ne pas l'avoir regardé. Aussi, et c'est toujours intéressant de le rappeler, la date de sortie de Star Wars en France et de ses lasers et ses boules lumineuses date de 1977. Soit seulement 2 ans avant la disparition. Donc on pourrait se dire qu'il y a aussi un terreau fertile dans l'imagination, dans la culture populaire, pour imaginer ce genre d'histoire, puisque c'est aussi en 1977 qu'est créé en France le GEPAN, le Groupement d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui prendra d'ailleurs contact avec Frank Fontaine pour proposer de passer une batterie de tests que Frank Fontaine lui-même refusera. Enfin, date de sortie du film La rencontre du troisième type, en France, 1978, un an après Star Wars, il y a une fascination dans la culture populaire pour les nouvelles technologies, les aliens et tout ce qu'il y a autour. Et souvenez-vous aussi, c'est en novembre 1975 que Travis Walton avait soi-disant disparu dans des circonstances à peu près similaires, lui avait refait surface quelques jours plus tard, et ses amis affirmaient qu'il avait été enlevé par des extraterrestres. C'est une histoire qui se déroule aux États-Unis et dont on a parlé dans notre autre podcast inspiré de faits réels.
C'est vrai que l'histoire est très très similaire quand même.
Ah, celle de Travis Walton, il y a énormément de traits, la disparition, le récit qui va venir après, les amis qui affirment avoir vu quelque chose, qui ont enlevé leur meilleur copain. Il y a énormément de traits similaires entre les deux histoires. Il faut aussi rappeler que les premières observations officielles d'OVNI datent de la fin des années 40 aux États-Unis, mais les OVNI sont surtout à la mode à la fin des années 70, et l'affaire de Cergy prend doucement une ampleur internationale, comme avait pu le prendre l'affaire de Travis Walton en 1975. Des articles paraissent dans la presse étrangère, des journalistes tentent de les interroger, et toutes sortes de fanatiques aussi se pointent en bas de chez eux pour leur parler, pour leur dire que eux aussi, ils ont vécu le même type d'histoire. Comme je vous disais, c'est une période où la pop culture et les médias en général, les médias journalistiques aussi, s'enthousiasment pour ce genre d'histoire. Frank Fontaine donne une conférence de presse le 4 décembre 1979, soit 2 jours après son retour. Donc l'emballement est tel que lui-même donne une conférence de presse qui sera enregistrée et qui sera à l'échelle nationale particulièrement suivie. Il annonce qu'il refuse de raconter ce qui s'est passé s'il n'a pas la garantie de la part de l'État qu'il ne sera pas enfermé. On passe donc du coup doucement de « je me suis évanoui entre 10 et 20 minutes » à « il s'est passé des choses, mais je ne le raconterai que si j'ai la garantie de ne pas être enfermé ».
Si on me donne un contrat d'exclusivité pour un livre.
Aussi.
Ça sent vraiment ça.
Puisque, et tu fais bien de le préciser, toujours le 4 décembre 1979, Salomon, Franck et Jean-Pierre rencontrent Jimmy Guilleux, L'homme, Henri-René Guyeux de son vrai nom, est journaliste, fondateur de l'IMSA, l'Institut Mondial des Sciences Avancées.
Qu'un nom assez présomptueux pour un organisme privé, si
je peux
me permettre.
C'est tout à fait ça. Il arrive à les convaincre, Jimmy, de passer quelques tests. Franck refuse toujours l'hypnose, mais Jean-Pierre Prévost lui donne son accord, en sachant que Jean-Pierre Prévost, lui, normalement, il n'a pas vu grand-chose. Il est resté à sa fenêtre, il a vu le brouillard envelopper la voiture, et quand il s'est approché avec son ami Salomon, il est censé avoir disparu. Il donne son accord alors même qu'il avait refusé au GEPAN, qui était à l'époque une institution beaucoup plus sérieuse que l'institut privé de Jimmy Guyeux. Les expériences, notamment l'hypnose, sont ensuite poursuivies à Aix-en-Provence, ville où vit Jimmy Guyeux. Et c'est à ce moment-là que vont être enregistrées les séances d'hypnose de Jean-Pierre. Ce qu'il faut noter à propos de Guyeux, c'est qu'il est très intéressé par les histoires d'OVNI. En parallèle de ses activités de journaliste, il est aussi auteur de plusieurs romans de science-fiction. Donc c'est quelqu'un qui a un attrait pour la fiction, et c'est quelqu'un qui a un attrait à la fois pour le surnaturel et pour les OVNI. Au fil des séances d'hypnose, des éléments s'ajoutent peu à peu à leur histoire. Franck Fontaine se souvient désormais avoir été emmené dans un laboratoire dans lequel il aurait vu des boules de lumière. Il prétend avoir rencontré cette fois des extraterrestres, notamment un qui avait un message à lui délivrer. Guyeux récolte ainsi quantité d'informations et leur propose, évidemment, d'écrire un livre.
Comme c'est étonnant de la part d'un auteur de science-fiction.
Et de plus en plus, leurs versions vont être enrichies d'éléments farfelus. Ça va évidemment commencer à étonner les spécialistes qui vont se pencher sur la question. Le livre, intitulé « Contact OVNI à Cergy Pontoise » est publié en 1980, alors que l'affaire a eu lieu fin 79, donc c'est une parution qui est particulièrement rapide, aux éditions du Rocher, et les trois témoins sont évidemment cités comme co-auteurs de l'histoire. En avril 1980, Franck raconte donc son histoire dans l'émission « Temps X » que j'ai mentionné tout à l'heure, pour promouvoir le livre de Jimmy Guyeux. La scène est surréaliste. Pendant que l'auteur raconte la rencontre avec un extraterrestre dénommé Orio, Jean-Pierre est à nouveau hypnotisé sur le plateau. Orio aurait donné une date pour le retour des extraterrestres sur la Terre, le 15 août 1980. Les extraterrestres auraient promis d'offrir aux terriens la technologie nécessaire pour que cessent les guerres et le déclin écologique.
Déjà, elle est
pas... Déjà. Et c'est en fait l'idée même de déclin écologique a commencé en particulier en 1969, quand on a eu les premières images en fait de la Terre comme un tout. On s'est rendu compte que oui, la Terre c'était un objet fini qui n'avait pas des ressources infinies pour le coup. Et le déclin écologique dans les années, au début des années 80, c'était quelque chose qui était ancré depuis presque une dizaine d'années dans notre culture. Le 15 août 1980, du coup, jour de rendez-vous des extraterrestres, plus de 2000 personnes se rendent sur les lieux de la disparition de Franck, à Cergy. Comme vous pouvez l'imaginer, évidemment, personne ne verra d'extraterrestres ce jour-là. Mais une autre date va être donnée, le 15 août 1983, 3 ans plus tard. Entre-temps, le GEPAN publie un rapport d'enquête le 4 mai 1981. Ce rapport, du coup, que j'ai pu consulter, est long de plus de 80 pages. Il permet d'accéder, en fait, à une foule de détails qui mettent largement à mal la version des trois amis. Ce sont des détails, mais par exemple, ils ont déclaré pour avoir contacté la police immédiatement après l'enlèvement de Franck, à 4h20, mais l'appel ne sera en fait réceptionné par la police qu'à 5h, alors que eux se réveillaient et partaient aux alentours de 4h du matin. Donc ça laisse déjà un petit temps. Aussi, l'orientation de la fenêtre de l'appartement de Jean-Pierre n'offre en fait qu'un mauvais point de vue sur la voiture. Eux racontent qu'ils ont vu la voiture dans le brouillard à côté de la centrale électrique d'où était descendue la lumière. Or, en fait, depuis l'appartement, on ne voyait pas grand-chose. Alors que leur déclaration même était très précise. Bref, il y a une myriade de détails qui s'accumulent contre eux et finalement, le GEPAN conclut son rapport ainsi, je cite « Les déclarations des témoins se caractérisent donc par une bonne cohérence générale et de multiples incohérences de détails dont certaines, au moins, paraissent graves. » Donc, ils ont raconté leur histoire à la police trouvait l'histoire, on va dire, plutôt cohérente, ce que note aussi le GEPAN, il y a une cohérence générale plutôt bonne, mais si on va dans les détails, ça tient un peu moins la route. Je continue, ils disent « Pour ce qui est de la cohérence, les contradictions atteignent un taux exceptionnellement élevé par rapport aux témoins que nous avons eu l'occasion de rencontrer, qui ne permet d'accorder aucun crédit aux informations rapportées. » Là, ça commence à être particulièrement clair. Il continue, ainsi il apparaît que les erreurs, mensonges et contradictions fabulatoires sont innombrables et de plus que certaines ne peuvent se comprendre que comme le fruit d'un désir conscient de déformer, falsifier ou créer de toute pièce l'information. Malheureusement, ce rapport sera très peu médiatisé et l'histoire continuera de circuler comme telle sans les apports du rapport du GEPAN. Le problème, c'est que des fanatiques continuent de poursuivre les trois amis, jusqu'à parfois rendre leur vie assez compliquée, et ils vont avoir notamment du mal à s'organiser, et vont avoir quelques difficultés à faire les marchés, puisque ce sont surtout des fanatiques qui vont venir leur rendre visite, et que du coup ça va faire complètement fuir les clients. Finalement, Jean-Pierre Prévost avoue tout en juin 1983, donc seulement 2 mois avant le potentiel deuxième retour des extraterrestres à Cergy. Il annonce que tout cela était une blague, qu'il a inventé lui-même le scénario, et qu'il a caché son ami Franck chez des amis pendant la semaine de sa, du coup, non-disparition. Il explique avoir tenté de réunir les gens autour d'un thème fédérateur, celui de la paix dans le monde, que seule une menace extérieure à la Terre pourrait provoquer. Il dira, un mois plus tard, dans Le Parisien libéré daté du 7 juillet 1983, que l'affaire de Cergy Pontoise est bidon du début à la fin. Il dit « J'en suis le seul responsable, c'est moi qui ai tout organisé, tout monté, je peux le prouver. Franck Fontaine a passé les 8 jours de sa disparition dans l'appartement d'un ami à Pontoise, c'est moi qui l'y ai conduit et c'est moi qui l'ai ramené. » Pourquoi 3 ans après ? Me diras-tu ? Eh bien, c'est parce que comme une enquête avait été ouverte et que ils ont complètement menti, rajouté des éléments à leur histoire et se sont un peu foutus de la tête de tout le monde. Eh bien, 3 ans, c'est le délai pour que passe l'outrage à magistrat.
Ils sont malins.
Et cela, évidemment, leur permettait de ne pas être condamnés pour quoi que ce soit. Ce qui reste un petit peu étrange, c'est évidemment que, en l'occurrence, Salomon Ndiaye et Franck Fontaine ne vont, eux, pas changer leur version. Ils vont considérer que leur version est la bonne et que ben, c'est tout simplement Jean-Pierre Prévost qui a craqué sous la pression de certaines personnes pour rentrer dans un discours davantage rationnel. Mais eux ne vont pas du tout changer leur version. Donc moi, ce que je te propose, c'est de suivre le rapport du GEPAN, c'est de suivre les aveux de Jean-Pierre Prévost et c'est de classer cette affaire.
Alors oui, j'ai envie de la classer. Il y a juste un dernier truc que j'ai du mal à comprendre. C'est pourquoi est-ce que les deux autres, je veux dire maintenant... C'est bon, enfin, on peut plus les poursuivre pour outrage à magistrat. On sait maintenant à peu près que c'est un canular. Pourquoi est-ce que les deux autres continuent à dire, surtout Franck Fontaine, qui est donc celui qui est censé avoir disparu, continue à maintenir ça, quoi. C'est ça qui me...
Alors, aujourd'hui, je saurais pas te dire. Genre, on a perdu leur trace, ces 3 hommes. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. En revanche, je pense qu'à l'époque, je suppose qu'ils ont vu passer l'histoire de Travis Walton, qu'ils ont vu le livre se faire, le livre avoir un succès, ils ont vu les rééditions, et plus tard, ils ont vu le film. Ils ont vu les droits adaptés au cinéma. Et je me suis demandé si quand même il n'y avait pas un petit désir encore de fantasme de voir cette histoire qui avait déjà été écrite dans un ouvrage se voir adaptée au cinéma ou, disons, avoir au moins des velléités, des ambitions un petit peu plus grandes.
Ah, et tu veux dire quoi, 2 personnes qui continuent à assurer que c'est vrai, eh bien du coup ça enterre pas totalement l'histoire.
Ça enterre pas l'histoire, ça continue un petit peu de faire rêver et potentiellement de toucher des droits sur une potentielle histoire, une potentielle adaptation.
Ce qui est dommage, parce que s'ils avouaient que c'est un canular, ça pourrait faire une très bonne comédie grinçante.
Oui.
Moi, je vois tout de suite une comédie là-dessus sur 3 mecs qui font un des plus gros canulars de France, parce qu'on peut parler de ça, c'est un des plus gros canulars qui a fonctionné en France. Hein.
Complètement.
Normalement, médiatique.
C'est un énorme canular, puisque non seulement il y a une grande quantité de médias, une grande quantité de journalistes qui vont complètement plonger tête la première en lui posant des questions très premier degré et en remettant finalement assez peu en cause sa version, ce qu'il raconte, ils vont simplement rapporter sa parole. C'est un peu, au final, quand le rapport du GEPAN arrive en 81, l'histoire a 2 ans, tout le monde sait, évidemment, que l'histoire est un canular. Mais je pense aussi que certaines personnes ne veulent pas forcément se l'avouer, déjà pour y avoir cru, dans un premier temps, ou pour avoir eu des doutes. Et ensuite, pour essayer de tenter de faire oublier finalement, plutôt que de ramener la lumière dessus avec un rapport qui dit que bah, finalement, si tout le monde avait bien fait son travail à ce moment-là, on se serait rendu compte que la foule de détails fait que l'histoire n'est pas crédible.
Bah écoute, je crois que je suis d'accord avec toi et évidemment, affaire classée. Avant de se quitter, on avait envie de vous faire quelques recommandations culturelles en rapport avec les histoires qu'on vous a racontées. C'est quelque chose qui va revenir dans le Bureau des Mystères très régulièrement. Si vous avez aimé nos histoires, on a envie de les prolonger, généralement. Et moi, c'est ce que j'ai voulu faire avec l'histoire de Jean Romier. Alors, ma recommandation aujourd'hui, ça ne va pas être un film, ça ne va pas être une série ou un livre. Ça va être en fait un art à part entière que j'ai découvert il y a quelques années maintenant, mais que j'ai encore plus apprécié il y a quelques mois, c'est le théâtre immersif. Le théâtre immersif, c'est pour moi un des arts qui permet aujourd'hui d'avoir l'impression, comme Jean Romier, d'être en dehors du temps, d'être dans une bulle à l'extérieur. Alors le théâtre immersif, qu'est-ce que c'est ? C'est du théâtre, mais où vous êtes directement avec les acteurs dans des décors souvent de cinéma. Vous avez vraiment l'impression d'être projeté à l'intérieur d'un film ou de carrément voyager dans le temps. Je l'ai découvert ça, comme beaucoup de personnes, avec une pièce qui s'appelle Sleep No More, qui est à New York. Si vous passez à New York, je vous invite fortement à aller la faire, c'est très impressionnant. C'est Punch Drunk, une société de production qui s'occupe de ça. Vous êtes sur plusieurs niveaux à l'intérieur d'une pièce de théâtre, au plus près des acteurs, qui là ne vous voient pas, hein. Vous pouvez être à 2 cm de leur visage, ils continuent à jouer comme si de rien n'était. Et le décor est fabuleux et ça vous donne... Moi, ça m'a donné l'impression d'être projeté dans un film de David Lynch. Il y avait un côté très étrange. Il y a aussi un petit côté jeu vidéo. En fait, t'as l'impression d'être un avatar de jeu vidéo, sauf que c'est toi qui te déplaces physiquement à l'intérieur... À l'intérieur de ces trois
étages. Il y a tout un contexte autour de toi qui te fait entrer dans une ambiance. Il y a tout le monde qui joue. Aussi.
Exactement. Et tout le monde joue le rôle. Dans Sleep No More, tous les personnages, donc c'est-à-dire tous les visiteurs, en fait, ont un masque blanc. Donc tu vois pas le visage des autres personnes du public. On leur conseille d'ailleurs généralement de s'habiller de manière sobre pour être en quelque sorte comme des ombres qui marchent comme toi à l'intérieur de cette pièce et qu'on ne voit vraiment que les acteurs. D'ailleurs, les jeux de lumière sont particulièrement bien étudiés pour ça aussi. Et en fait, quand je suis revenu de New York après avoir fait Sleep No More, j'ai eu évidemment très envie de refaire des pièces de ce type-là. Et il n'y en a pas eu beaucoup, en fait. Il y en a eu à Londres, il y en a eu à Los Angeles, mais ça impliquait d'aller à Los Angeles, et elles sont plus sur l'esprit horrifique. Il y a vraiment une scène horrifique à Los Angeles sur le théâtre immersif qui est assez présente, donc ça me faisait un petit peu trop peur. J'avais pas très envie d'aller dans une maison dans les collines de Los Angeles avec une famille de cannibales et de me cacher pendant le repas, si tu veux, parce que c'est vraiment un scénario qu'il y a, par exemple. Donc j'ai attendu qu'il y en ait une en France, et il y en a eu une. Il y en a eu une, ça s'appelait Close, une pièce de théâtre immersif qui est faite par la société Big Drama. Et j'ai vraiment eu l'impression de voyager dans le temps d'une soirée. En fait, l'histoire, c'est qu'on était dans une espèce de maison close, qui est devenue une maison de plaisir. On est dans un contexte de guerre 14-18. Et là, contrairement à Sleep No More, les acteurs vous parlent, comme si vous étiez des invités du mariage. Donc là, le sentiment vraiment jeu vidéo, première personne, est vraiment très fort. C'est-à-dire que tu arrives et les gens te remarquent, quoi. Les acteurs en tenue d'époque viennent te parler, ils te disent « Ah, comment ça va ?» Ils te font visiter des endroits. J'ai même vu une des personnes qui a eu une discussion avec la chanteuse du cabaret pendant 10 minutes sur son lit, discuter... comme si on était réellement donc je crois que c'est en 1918 que se passe la pièce, comme si on était vraiment en 1918. Et tout est articulé autour d'un mariage qui va avoir lieu. Un homme revient du front en permission pour se marier, donc c'est ce qui va se passer à la toute fin de la pièce. Cette pièce-là est aujourd'hui terminée, malheureusement, mais voilà, elle m'a vraiment donné cette impression d'être comme Jean Romier en dehors du temps, de voyager là-dedans. Et je sais que Big Drama est une des rares sociétés, en tout cas en France, une des rares compagnies qui a l'intention de faire aussi bien que Punch Drunk aux États-Unis, qui a vraiment l'ambition de faire des pièces aussi immersives. Donc je ne saurais que trop vous conseiller de suivre leur prochain projet, parce que je pense que ce qu'ils vont faire par la suite sera encore mieux que Close, et Close était déjà très très bien.
Eh bien écoute, ça a l'air très chouette. Quant à moi, je vais vous recommander trois petites choses. Premièrement, deux films. Fire in the Sky, traduit en français par Visiteur extraterrestre, réalisé par Robert Lieberman, sorti en 1913, inspiré du bouquin de Travis Walton. Donc c'est le film dont j'ai rapidement parlé dans l'histoire, où en fait Travis Walton se fait enlever par des extraterrestres et va revenir quelques jours plus tard avec un récit que l'on ne va pas avoir tout de suite et que l'on aura, disons, en dernière partie de film. Vraiment, ce qu'il aura vécu, on va le voir en dernière partie. C'est un film qui est un petit peu inégal, qu'on a chroniqué du coup dans Inspiré de Ferrel. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter l'épisode d'Inspiré de Ferrel sur Fire in the Sky. Et le bouquin aussi que j'avais eu l'occasion de consulter pour l'épisode d'Inspiré de Faits Réels. Bouquin qui est pas particulièrement bien écrit, je l'avais lu en anglais, mais qui a l'avantage de, on va dire, expliquer certains creux que laissent le film, notamment sur qui était Travis Walton, quel type de personnage il était. Donc voilà, Fire in the Sky dans un premier temps. Dans un deuxième temps, Premier Contact, The Arrival, puisque là on parle d'extraterrestres, et c'est marrant parce que ça marche aussi avec ton histoire de théorie sur le passé, le présent, le futur, qui s'en mêlent en un seul et même temps, où on ne sait pas trop quand et quoi, et tout. Bah, Premier Contact a un petit peu de ça aussi. Il a un petit peu de ça. Et il a aussi un petit peu des histoires, même beaucoup plus des histoires d'extraterrestres. C'est un film de Denis Villeneuve qui est sorti en 2016, avec Emilia Adams, Jeremy Renner et Forest Whitaker notamment, et qui reprend ce thème politique et poétique de menaces extérieures qui réuniraient l'humanité ou la désuniraient. Donc on a vu avec l'histoire de Frank Fontaine que c'était pas un thème qui était particulièrement récent, mais que Premier Contact, on va dire, met en scène de manière vraiment très intelligente. En ce qui concerne, c'est vraiment un de mes films préférés sur les extraterrestres. Quand je l'avais vu en 2016, ça m'avait vraiment soufflé. Donc autant Fire in the Sky, c'est un film assez inégal, autant Premier Contact, si vous aimez un peu la science-fiction, si vous aimez un peu ces problématiques-là, c'est vraiment un film que je vous conseille. Et enfin, en troisième et dernière recommandation, l'émission, l'épisode d'Affaires Sensibles sur le sujet de Frank Fontaine et sur l'enlèvement, qui retrace de manière encore plus longue toute l'histoire, avec évidemment les archives, l'avantage des archives audio de France Inter. Donc allez, si vous voulez approfondir cette histoire des ovnis de Sergi Pontoise, je vous conseille vivement d'aller écouter l'émission Affaires Sensibles sur ce sujet.
En attendant un nouveau numéro, on vous propose de nous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, @BDMlePodcast, sur Facebook, donc la page Charles et Mathias, inspiré de Ferrel, le bureau des mystères. On a aussi un Discord, le Discord des Diplodos, si vous voulez nous rejoindre. On y discute un petit peu de tout, de pop culture, de aussi des recommandations d'autres podcasts. On recommande pas mal de choses, donc voilà. Et on parle évidemment des émissions. Et vous pouvez également nous retrouver en librairie, puisque le livre Le Bureau des Mystères, qui compile 30 histoires étranges et effrayantes, est toujours disponible un petit peu partout.
Du coup, il me reste à vous dire rendez-vous le mois prochain pour classer de nouvelles affaires.